Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons parler éducation, nous allons parler école, nous allons parler surtout accompagnement des enfants. Et pour en parler, je suis avec trois personnes, trois AESH, on va voir de quoi il s'agit, qui sont ces personnes, comment on les recrute, quel est leur métier et quels sont leurs besoins. Et pour en parler, je suis avec Laurence, bonjour Laurence.
Bonjour.
Je suis avec Julie, bonjour Julie.
Bonjour.
Et je suis avec Alexandra, bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors Laurence, on va commencer par vous. Une AESH, c'est quoi ?
C'est une accompagnante ou accompagnante d'enfants en situation de handicap. Ce sont des personnes qui aident dans les établissements scolaires des enfants en situation de handicap dans le but de favoriser leur autonomie.
Donc c'est dans le sein de l'école, c'est pas des accompagnements dans la vie quotidienne, c'est dans la classe.
Oui, tout à fait.
Alexandra, c'est un métier qui existe depuis combien de temps ça ?
Depuis environ 20 ans.
Elles font quoi dans la classe avec les enfants ?
Elles sont en général à côté de l'élève et essayent, selon les difficultés de l'enfant, l'accompagner au mieux, soit pour comprendre les consignes, lui répéter, soit pour le calmer au niveau du comportement et surtout essayer de faire en sorte que l'élève ne soit pas laissé de côté.
Le calmer, parce que c'est des enfants qui sont comment mal élevés, qui sont plus durs que les autres ?
Absolument pas. Ce sont souvent des élèves en difficulté avec des problématiques pathologiques reconnues et donc qui ont droit à un accompagnement pour les aider à se poser, à se concentrer.
En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont en situation de handicap, reconnu, c'est-à-dire que l'attribution d'un ou d'une AESH auprès de l'enfant est quelque chose qui est déterminé médicalement, j'allais dire.
Oui, par la MDPH précisément. C'est en commission qu'ils décident ça. Ils reçoivent des demandes de la part de parents suite à une réunion qui a été faite au sein de l'établissement avec le chef d'établissement. Et ça donne lieu à un document qu'on appelle le GEVASCO. À la suite de ça, donc c'est pour la première demande. Les parents peuvent donc constituer un dossier et faire leur demande auprès de la MDPH qui va statuer si effectivement c'est pertinent ou pas.
S'il y a une prise en charge ou pas d'accompagnement des enfants. Et cette prise en charge, Julie, elle est tout au long de la journée. Ce sont des heures, pour toutes les matières, c'est quoi ?
Alors oui, c'est normalement pour toutes les matières, mais chaque enfant étant différent, on essaye d'adapter au mieux et d'être là pour aider l'enfant dans les matières où il a le plus besoin. Et il peut avoir besoin d'accompagnement sur une matière et pas forcément sur l'autre. Donc nous essayons d'en discuter avec l'élève, avec les parents et surtout aussi avec toute l'équipe éducative, pour essayer de mettre en œuvre un accompagnement le plus pertinent et le plus efficace pour l'enfant et dans le but de l'aider au mieux dans ses apprentissages.
Laurence, on parle encore une fois de handicap. Ça se manifeste comment ces handicaps ? C'est quoi ?
Alors ça peut être des handicaps visibles ou invisibles. Dans les handicaps visibles, c'est des handicaps moteurs. Il peut y avoir des handicaps sensoriels, cognitifs, psychiques et mentaux. Voilà.
On n'est pas médecin, mais on connaît l'origine un petit peu, ces dysfonctionnements ou pas ?
Parfois, c'est neuronal, même je dirais neurodéveloppemental, ça c'est pour ce qui concerne le trouble autistique, donc le TSA. Et puis après, c'est des dysfonctionnements, tous les dys qu'on appelle, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, etc. Et voilà, après mon moteur, je crois que tout le monde comprend. Et puis, psychique, ça relève de la psychologie.
Scolaire, un truc comme ça.
Oui, voilà, de toute manière, il faut savoir qu'il y a des bilans qui doivent être effectués par des professionnels qui vont constituer justement le dossier que le parent va transmettre à la MDPH. Mmh. Voilà, c'est vraiment, mais médical. Voilà. Et ça donne lieu parfois, par contre, à des comportements inadaptés, etc. Mais à l'origine, c'est un trouble.
L'enfant se retrouve dans un milieu qui peut être anxiogène pour lui, je vais dire comme ça, et qui fait qu'il a des comportements, comme vous dites, inadaptés.
Anxiogène, mais moi je dirais plutôt que c'est, comme disait Alexandra, ça relève du médical, du pathologique, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que ce sont des enfants extraordinaires.
Alexandra, je crois que vous êtes dans le métier depuis 20 ans, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, comment vous avez vu évoluer ce métier depuis 20 ans ?
Alors malheureusement, je dirais qu'on ne peut pas dire que ça évolue dans le bon sens. Lorsque j'ai débuté, je travaillais avec principalement un élève ou deux, grand maximum, pour une année. C'est-à-dire que vraiment tout mon temps de travail était consacré à un ou deux élèves. Donc on pouvait bien s'adapter à l'enfant, bien le connaître et surtout suivre avec lui les journées, les heures et vraiment l'accompagner sereinement, en connaissant vraiment l'enfant. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, surtout ces 5-6 dernières années, ça s'est énormément dégradé et aujourd'hui, je me retrouve, alors je parle pour mon cas, mais c'est exactement la même chose pour mes collègues, à travailler avec jusqu'à 20 enfants.
Comment vous faites ?
Alors, c'est 20 enfants, on va dire, attribués pour l'année. Donc, ça va être dispatché sur une semaine. Parfois, il arrive qu'on ait un enfant une ou deux heures seulement par semaine. Parfois, on va en avoir 5 ou 6 en même temps dans la même classe. Donc à ce moment-là, il faut arriver à gérer l'aide aux 5 ou 6 enfants en même temps. Et là, autant vous dire que ça devient vraiment...
C'est du jonglage, là.
Là, ça devient de l'aventure extrême limite, quoi.
Julie, comment devient AESH ?
Je pense que la majorité, je ne dis pas toutes, mais la majorité des AESH ont un parcours. Et souvent, ce n'est pas forcément des parcours faciles. Quand on décide de travailler avec des personnes et notamment des enfants, je pense qu'il faut des qualités qu'on peut acquérir aussi par une expérience de vie, peut-être aussi par des parcours qui nous ont appris dans nos sphères privées à voir, à connaître des personnes ayant des troubles ou parfois des difficultés. Et je pense que c'est pour la majorité des AESH avec lesquels j'ai pu m'entretenir et parler, et échanger, c'est souvent l'envie de faire passer l'aide à la personne, l'aide, oui, à l'humain, en priorité avant de travailler, faire de l'argent, par exemple. C'est, là, aujourd'hui, c'est travailler avec des jeunes enfants, des enfants plus âgés, dans le but de les aider. Pour moi, c'est un métier vocation. J'ai qu'un terme à dire, c'est une véritable vocation. Oui, envie d'aider l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, on a vraiment besoin de cette entraide et de cette, peut-être, fraternité. Devenir aidant, c'est accepter l'autre comme il est et c'est essayer de lui donner toutes les chances de pouvoir accéder à une autonomie et une acceptation dans une société où on vit de manière de plus en plus difficile et aider tous ces enfants à gagner leur autonomie et leur liberté au final.
En fait, on ne devient pas AESH par hasard. Si peut-être au début, mais on ne le reste pas si on n'est pas bienveillant envers les enfants. C'est ça, c'est la bienveillance.
Exactement.
Et est-ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec Alexandra, je rebondis aussi sur vous, Julie, c'est-à-dire qu'on n'y vient pas par hasard, mais on n'y vient pas pour faire de l'argent. Parce que Laurence, une AESH, c'est pas bien payé. C'est-à-dire que le salaire d'une AESH, si vous me l'avez dit un petit peu en préparant l'émission, c'est 24-32 heures par semaine
heures.
Pour un maximum en fin de carrière à 1200-1300 euros, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Ouais, ce qui n'est pas énorme pour hein, c'est... Et sachant très bien qu'en plus, vous avez vos déplacements, vous avez vos contraintes de gymnastique, j'allais dire, entre les enfants, peut-être même d'un établissement à l'autre parfois.
Ça peut arriver, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Ce qui veut donc dire, on en arrive enfin au cœur du sujet, qu'on est en manque de vocation, mais surtout en manque de moyens pour permettre aux gens d'avoir ces vocations. C'est bien ça, Julie ?
Oui, tout à fait. Dans les dernières statistiques que j'ai pu lire, on constate notamment une très large aggravation de la représentation des AESH pour les enfants. Et c'est que de 2024 à 2025, il y a eu une augmentation d'enfants et il y a eu une grosse baisse de représentation des AESH qui ne peuvent plus suivre par rapport au nombre d'enfants qu'il y a à accueillir. Aujourd'hui, on se retrouve, nous, en grande difficulté, puisque plus d'enfants, mais moins d'accompagnants et surtout beaucoup de collègues qui ont démissionné. Dans les statistiques, il est dit qu'un enfant sur sept ne serait plus accompagné, serait donc avec des agréments MDPH, mais sans accompagnement, vu qu'on nous dit qu'il n'y aura pas d'autres embauches dans l'avenir. Que vont devenir ces enfants qui ne sont pas accompagnés? Telle est la question.
Et c'est la double peine pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire à la fois pour ces enfants qui pâtissent du manque d'accompagnement, mais aussi des enfants qui sont à côté, qui subissent, je dirais, ce manque d'accompagnement, qui ralentit l'ensemble de la classe, et même des enseignants qui sont obligés, eux, en plus de leur classe, de faire cet accompagnement auprès de ces enfants en difficulté. Et donc, tout le monde en pâtit, bien sûr, évidemment, les parents des enfants qui sont en difficulté, les enfants 10. Si vous aviez des souhaits à émettre, si vous aviez des revendications, disons le mot, quelles seraient-elles, Alexandra?
Je pense que la priorité serait vraiment un recrutement intensif au niveau des AESH.
Qui recrute?
Alors, le recrutement est fait par le rectorat, bien évidemment, mais le rectorat fait avec les moyens qu'il a et qu'on lui attribue. Et ces moyens sont attribués par le ministère de l'Éducation.
Ça se décide donc au plus haut niveau?
Au plus haut niveau, au niveau du gouvernement. Or, le gouvernement ne met pas de budget pour l'éducation nationale, et donc encore moins pour les AESH.
En plus, je crois que pour faire connaître votre métier, parce que je fais un métier qui n'est pas très connu malgré tout, sauf dans les petites classes, vous organisez une journée d'action, Laurence, le 12 février, c'est ça?
Le 12 février, nous serons présentes devant le collège de Caserne. Pour informer les parents de la situation. Nous aurons des documents à leur transmettre pour les informer.
On pourra bien sûr discuter avec eux. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant de la situation et qui se demandent pourquoi leurs enfants ne sont pas plus aidés.
D'autant plus que, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une décision médicale, il y a eu un papier qui justifie l'emploi et l'accompagnement de cet enfant, Julie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et ce que nous, on note dans notre manière de travailler, mais elle est, je pense, globalement nationale, hein, mais nous travaillons avec des heures morcelées. C'est-à-dire que, par exemple, on a plusieurs classes. Nous avons jusqu'à 7 enfants à nous occuper par classe. Et parfois, on a un choix à faire. Devons-nous aller avec tel enfant en français ou avec un autre enfant en maths, par exemple? Quel est le plus important? Est-ce qu'on doit suivre tel élève? Laisser de côté un autre élève parce qu'on n'a plus le temps? Quel est le choix qu'on fait? Comment peut-on choisir entre deux enfants, entre deux parcours, entre deux troubles? Pour nous, c'est quand même très difficile et c'est pour ça que les parents sont en droit de connaître ces difficultés-là et de voir ensemble s'il n'y a pas une possibilité que ces enfants soient mieux suivis. Comment ils pourraient être mieux suivis? Il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut dire, il faut vraiment embaucher du personnel, puisqu'on a donné à ces enfants une aide. On travaille sur l'autonomie. Ce qui est très important, c'est que cette aide, elle doit être ponctuelle et bien dirigée. Mais même si elle est ponctuelle et bien dirigée, travailler avec des heures morcelées, abandonner un enfant, une heure, aller ailleurs, une autre heure, etc., c'est pas ce qu'on appelle un accompagnement de qualité pour le bien-être de l'enfant, mais ne pas oublier aussi le bien-être de la classe, puisque quand les AESH ne sont pas là, il y a les enseignants qui eux aussi pâtissent de la situation parce qu'ils sont obligés eux aussi sur des classes de 29 à 30 élèves. Ils ont jusqu'à 7 enfants en plus à s'occuper et ils se retrouvent parfois seuls sans AESH. Donc c'est toute la chaîne qui pâtit. En premier, évidemment, l'enfant. En second, forcément, aussi le personnel qui essaye de faire au mieux. Je pense que dans l'éducation nationale, on a cette chance. C'est qu'on est quand même tous volontaires et bienveillants, pour la majorité d'entre nous en tout cas. Et on essaye de faire au mieux. Ce pourquoi aujourd'hui on est là, c'est aussi pour dire, nous sommes là aux parents, aidez-nous à faire que l'école reste un sanctuaire bienveillant pour les enfants.
Bon, je sens tout à fait que toutes les trois, vous aimez votre métier, aimez partager avec les enfants. Peut-être que ça va susciter des vocations. Sait-on jamais des gens qui nous écoutent et qui aimeraient aussi donner un coup de main aux enfants? Des personnes, elles, ont envie de devenir AESH, comment ça se passe?
Moi, ce que j'en connais, puisque je fais ce métier depuis pas très très longtemps non plus, il y a deux manières. faire une candidature spontanée auprès du rectorat, ou maintenant c'est France Travail, aller demander à France Travail, parce qu'il y a des sessions de recrutement qui se font, je pense, une fois par an, quand il y a des postes à pourvoir. Maintenant, on est un statut qui doit changer, puisque en proposition sur une loi au Sénat, me semble-t-il, en janvier, qui a été rejetée, mais il y a une proposition qui est faite pour que le recrutement des AESH soit fait par concours et non plus par candidature. Au niveau des examens exigés, moi, à l'époque, ce qu'on nous demandait, c'est d'avoir le baccalauréat, au minimum, ou alors avoir une expérience réussie dans le monde du social ou du médico-social et des formations via CAP, mais plus après travail avec, justement, avec les enfants. Ça, c'est le rectorat qui décide par rapport aux campagnes qu'ils font. Mais il faut dire qu'à partir de 2026, le recrutement va changer et qu'aujourd'hui, on en est au balbutiement et que les choses vont évoluer au niveau des statuts, mais aussi au niveau du recrutement.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur le métier d'AESH, si vous voulez rencontrer des AESH, poser vos questions pour savoir pourquoi il n'y en a pas autant, pourquoi votre enfant n'est pas pris en charge par une AESH ou un AESH peut-être, vous aurez l'occasion de les rencontrer le 12 février devant le collège de Cazères. L'ensemble d'une équipe du territoire sera présente pour vous parler de leur travail, de leur passion, de leur métier, de leurs difficultés aussi, et d'échanger avec vous. Ça sera l'occasion, en particulier au moment des heures d'entrée le matin et de sortie du collège, pour pouvoir échanger avec elles. Mesdames, merci beaucoup. Merci d'être venues partager votre bienveillance et votre passion sur Radio Galaxy. Et puis, écoutez, bon courage.
Merci à vous
de nous avoir reçus.
À Cazères et autour de Cazères, on écoute Radio Galaxy sur le 98.5 FM.